la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Camille Scalier. Bonjour Camille.
Bonjour.
Physicienne à l'ENS. Alors aujourd'hui, c'est un épisode vraiment très très spécial. C'est la toute première fois que je fais ça. Camille et moi, nous sommes en direct avec une classe de collège de 3e. Vous pouvez dire bonjour. Et donc, ça va être un épisode interactif. Ça va pas juste être moi qui vais interviewer Camille, ça va être la classe. Donc, on aura des questions spontanées quand ils auront des questions ou elles auront des questions. Elles viendront poser les questions à Camille. Donc, Camille, merci de faire le cobaye.
Avec plaisir.
Pour cet épisode vraiment, vraiment spécial, je suis super contente. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Alors, on va commencer tout simplement. Camille, j'ai dit que tu étais physicienne. Est-ce que tu peux nous expliquer tes recherches en vulgarisé?
Tout à fait.
Et est-ce qu'on commence avec la blouse?
Allez, on commence avec la blouse.
Allez, on va continuer dans la logique, dans la tradition. Donc j'aime bien sous la blouse demander, est-ce que les chercheurs ont des blouses? Donc Camille, est-ce que tu portes une blouse au labo?
Je ne porte pas de blouse au labo.
Shocking.
Mais en fait, je vous propose de faire un vote. Parce que j'ai retrouvé ma blouse de collège, lycée récemment chez moi. Et je l'ai essayée, j'ai pris une photo. Et... je vous propose de voter, est-ce que je devrais porter une blouse au labo ou pas?
Ok, est-ce qu'on vote au bruit, comme ça les auditeurs et auditrices pourront entendre? Alors,
j'ai pris une photo avec ma blouse, j'essaie de la montrer.
À votre avis?
Est-ce que je devrais porter cette blouse au quotidien? Évidemment, propre et repassée, hein. Là elle n'est pas repassée.
Allez, faites du bruit si vous pensez que oui. Et si vous pensez que non? Ah bah merde. Apparemment tu devrais la porter.
Ok.
Donc t'as la classe. Je pense que tu t'attendais à une autre réaction, non?
Ah j'étais très très ouverte, mais je note. Merci de m'aider à me vêtir au quotidien.
À te vêtir. Voilà, donc tu devrais porter cette blouse. Je la mettrai sur Twitter, tiens. La photo, ça te va?
Ok.
Dans le fil. Donc si jamais vous voulez voir la photo, faut aller sur le compte Twitter de Sous la blouse. Donc maintenant tu peux nous raconter ce que tu fais au labo.
Donc pourquoi pas de blouse? Parce qu'en fait je fais de la physique théorique, donc je fais pas des expériences, je suis devant mon ordinateur tous les jours où je parle avec des gens, et du coup je suis pas exposée à des saletés ou des produits chimiques qui pourraient me salir, donc c'est pour ça que je porte pas de blouse. Donc pas de saleté, pas de produits chimiques, mais du coup si je comprends bien, pas assez de style, donc je note. Et donc la physique, je pense que vous avez des cours de physique, hein. En fait, c'est de comprendre les lois qui régissent l'univers, donc comment tout ce qui se passe autour de nous évolue, c'est vraiment ces lois physiques. Et je pense que généralement on explique que la physique, ça explique vraiment d'un point de vue fondamental, tout ce qu'on observe de l'infiniment petit, donc l'atome, la mécanique quantique, peut-être vous avez entendu parler un peu grossièrement, jusqu'à l'infiniment grand, donc l'univers, pourquoi l'univers existe, les étoiles. Et en fait, moi je m'intéresse ni à l'un ni à l'autre, je m'intéresse à tout ce qui est infiniment quotidien, et finalement peut-être de votre point de vue un peu banal. Mais en fait, il y a énormément de questions qu'on se pose encore sur des choses qu'on expérimente au quotidien, vous aussi. Donc, par exemple, moi, je travaillais beaucoup sur le verre. Donc merci beaucoup. On a du verre devant nous. Donc ça, le verre, vous en avez au quotidien, partout autour de vous, de cette forme-là, mais en fait de plein de formes plus complexes. Par exemple, je pense que la plupart d'entre vous, maintenant, vous avez un smartphone. Et donc le verre, c'est un solide, mais c'est un solide qui est hyper particulier. On ne comprend pas pourquoi il existe. Et donc ça, c'est vraiment des questions, ça paraît vraiment trivial. Pourquoi le verre existe? Et en fait, moi, j'essaie de comprendre pourquoi le verre existe.
Ouais.
Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu ce matériau? Par exemple, quand vous allez casser votre écran, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais ça
si.
Arrive, malheureusement.
Ouais.
Et en fait, on ne sait pas prévoir comment le verre va casser, à partir de d'où, alors que pour d'autres solides, par exemple, les solides, les métaux, bon, bah là, je pense que c'est du métal.
Ouais, le pied de micro.
Le pied du micro, c'est du métal. Et par exemple, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que si on zoome sur les atomes, ils sont tout bien ordonnés comme je sais pas si vous avez déjà vu, je sais pas, moi j'étais en Angleterre pendant de nombreuses années, la relève de la garde ou vraiment des gens qui sont tout bien alignés, les atomes ils sont super bien alignés et des fois il y a quelques défauts, donc c'est pas très bien aligné, si on tord à cet endroit c'est ces endroits qui vont casser en premier. Mais le verre c'est totalement désordonné en fait. Un verre c'est quoi? Je sais pas si vous avez déjà vu comment ça se crée. On prend du sable, on le met dans le four. Ensuite, on le sort, ça fait quelque chose de très très visqueux et assez rapidement, ça devient solide. Et en fait, c'est vraiment un liquide qui coule pas assez rapidement. Et ça pose plein de questions. Donc, il y a des applications, mais il y a beaucoup de questions fondamentales sur le verre notamment.
Ah, c'est excellent parce que justement, quand on voit physique théorique, tu vois, on se dit « Ouais, ça va être super compliqué et tout », mais déjà, tu nous as rendu ça très simple, donc merci. Et puis, c'est sur des questions de tous les jours. C'est cool à voir, c'est pas sur des trucs complètement complexes, déjà qu'on a du mal à comprendre, tu vois. C'est vraiment genre comment le verre se casse. Ouais. Comment ton écran de smartphone fait cette espèce de truc pas possible, quoi. Alors, on a une question.
La thèse que tu as faite, Camille, c'était portée sur le verre également ?
Oui, c'était tout à fait portée sur le verre. Donc ça, c'est une thématique que j'ai développée. En fait, je ne sais pas à quel point je dois parler de mes recherches.
On va en parler
d'autres choses.
Ouais, après, on va parler de tout son parcours, ouais. de comment tu as décidé, peut-être quand tu étais petite ou peut-être après, de faire de la recherche et sur quoi tu as fait ta thèse. Mais c'est une bonne question. Oui. Donc, tu as fait ta thèse et maintenant, tu travailles sur le même sujet.
Je continue à travailler entre autres sur ce sujet, mais aussi sur d'autres sujets. Donc par exemple, le verre, c'est principalement un sujet que j'ai fait pendant ma thèse. Et maintenant, je m'intéresse à d'autres systèmes. Si vous voulez, je peux en parler un peu. Tu veux que j'en parle un peu plus ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc en fait, si on explique un petit peu, si je vous explique un petit peu plus en détail ce que je fais en physique... En fait, je faisais la physique statistique, donc je pense que vous avez entendu déjà les mots statistiques, souvent on entend parler dans les médias de la statistique. En fait, c'est quoi ? C'est quand on a vraiment beaucoup de données, beaucoup de personnes qui répondent, par exemple, on essaie de faire des statistiques sur ces réponses. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la physique, c'est quelque chose qui paraît assez trivial, mais en fait, si vous regardez l'eau, là, si on arrivait à zoomer, bon, l'eau, c'est fait de molécules. Je pense que vous la connaissez tous, H2O. En fait, c'est vraiment tout simple. Ça fait deux hydrogènes et un oxygène. Chaque molécule, elle est vraiment triviale. Mais quand on en met plein, donc 10 puissance 24, voire plus, enfin, vraiment énormément, ça donne lieu à des comportements qui ne sont pas du tout évidents. Par exemple, les transitions de phase, vous le savez très bien. Là, on a de la chance à Paris, il ne fait pas très très froid. Mm. Mais quand il fait froid, l'eau, à partir de 0 degré, elle gèle. Et vous voyez qu'entre l'eau liquide et l'eau cristalline, il y a vraiment une différence majeure. Il y en a un qui est liquide, l'autre qui est solide. Ce n'est pas du tout le même comportement. Et la physique statistique, c'est essayer de comprendre comment une molécule d'eau toute seule, en dessous de 0 degré ou au-dessus, elle ne change pas. C'est la même molécule. Mais toutes ensemble, elles ont un comportement qui est radicalement différent. Ouais. Dans un cas, c'est de l'eau liquide et dans l'autre cas, c'est l'eau solide. Et donc la physique statistique, c'est essayer d'avoir des outils qui permettent de décrire ça. Et moi, en particulier, je suis intéressée dans les questions où il y a du désordre. Donc, comme je vous ai dit, les verres, c'est un solide qui est désordonné. Si on arrive à zoomer, les atomes et les molécules sont complètement désordonnés. Et donc, je pourrais en parler un peu plus, mais je suis intéressée dans ces domaines. Et ça s'applique à vraiment plein de sujets autres que vraiment juste le matériau.
Ah, c'est excellent. Bah, on va penser à toi quand on verra l'eau se mettre à geler, ouais. Ou quand on verra une carafe. Quand on verra une carafe. On a encore une question.
Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans le four pour que le sable, ça devienne du verre ? Et aussi, est-ce qu'on peut utiliser un four du quotidien, justement, ou est-ce qu'il faut un four spécial ou...
Eh bien, je réponds aux deux petites questions. Je vais répondre à la deuxième pour commencer. En fait, il faut avoir des températures qui sont extrêmement élevées. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire dans notre four à la maison parce que ça monte vers 220 degrés. Ouais. Pour tout avouer, je ne sais pas quelles sont les températures dans les fours vraiment qui sont utilisés pour faire du verre, mais c'est plus de 1000 degrés. Enfin, c'est vraiment extrêmement chaud. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, précisément, c'est une transition de phase. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, on a essentiellement de la silice. Donc, c'est du sable qu'on met. Qui est solide et généralement qui est cristallin. En fait, le sable, peut-être vous avez entendu parler du quartz. Ça, c'est vraiment des matériaux qui sont des cristaux, donc c'est solide. Mais si on arrive à zoomer, c'est vraiment tout bien ordonné. Quand on chauffe beaucoup, on donne de l'énergie à ces atomes pour bouger plus. En fait, essentiellement, quand vous montez la température, les choses à l'échelle vraiment atomique, elles bougent beaucoup plus. Et du coup, l'arrangement bien ordonné, comme chaque atome bouge beaucoup plus, ça casse cet ordre cristallin et ça devient liquide. Donc quand on met dans le four, bah, c'est la même chose que quand tu prends de la glace et tu la sors à température ambiante, ça devient liquide. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le four. Ça devient un liquide. Tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, ils sortent les trucs et ça fait un espèce de truc visqueux.
Ouais, c'est
le moment
de...
où ils arrivent encore à... Ça devient de plus en plus visqueux. Mais précisément, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent dans le four, ça devient un liquide. Mais quand ils ressortent, finalement, la température, elle diminue vraiment rapidement. Et ça, ça fige totalement le liquide très visqueux et ça fait un verre.
Et c'est un peu comme la lave d'ailleurs.
Exactement.
Parce que la lave qui sort d'un volcan, elle est super visqueuse, elle est liquide, enfin une espèce de liquide bien visqueux quoi. Et elle refroidit vite. Et du coup, suivant la vitesse de refroidissement, ça devient plus ou moins véreux ou cristallisé, etc.
Exactement. Il y a des vers volcaniques en effet qui reproduisent exactement ça. Et là, en effet, bah, dans le volcan, c'est plus chaud que ouais. dans un four traditionnel.
Ouais.
Et ça forme des vers. Donc c'est des types de vers qui sont utilisés. Moi, je fais pas des expériences, comme je vous ai dit, même si je vais mettre ma blouse maintenant. Je vous enverrai une photo. Les gens, ils arrivent à faire des expériences, mais ils peuvent aussi travailler sur des vers qui sont extrêmement anciens, donc volcaniques. Et il y a même des vers qui viennent de météorites. Donc ça, c'est des vers qui ont été créés ailleurs dans le système solaire, j'imagine,
ouais.
Qui peuvent venir sur Terre et qui sont du coup extrêmement anciens. Donc c'est utile pour comprendre comment l'âge d'un ver, c'est un paramètre important, influence ses propriétés.
On a une question.
Tout à l'heure, tu disais que tu utilisais beaucoup ton ordinateur, mais est-ce que ça, tu as déjà été amené à utiliser d'autres outils, d'autres machines potentiellement?
Oui, tout à fait. J'utilise beaucoup l'ordinateur parce que je fais ce qu'on appelle des simulations numériques. Donc, je fais des expériences sur l'ordinateur, en gros, très modèle.
Ouais.
Mais en fait, pendant mes études, j'ai dû faire 3 stages de recherche. Et en fait, j'ai fait 3 stages expérimentaux. Donc, j'ai fait des expériences sur différentes choses. J'ai fait des expériences sur, ça s'appelle des cristaux liquides. C'est les anciennes montres ou même les montres un peu Casio, les trucs comme
ouais.
ça, les affichages ou les anciens écrans.
Les trucs marrons, la gris et noir là, non
ouais, ouais. Exactement. J'ai fait des expériences sur ça, j'ai fait des expériences sur des matériaux granulaires, donc vraiment un peu comme des tas de sable, essayer de comprendre, c'est ce que je disais, hein, les trucs simples du quotidien, essayer de comprendre ces choses-là, ou des suspensions un peu denses, donc des toutes petites billes de plastique dans l'eau, essayer de comprendre. Vous essayerez chez vous, il y a un effet, ça s'appelle le coffee ring effect. Vous pouvez faire cette expérience chez vous, s'il y a des gens qui boivent du café, vous mettez une goutte de café sur la table, vous la laissez évaporer, et vous verrez que la goutte, même si ça fait, c'est en contact avec la table sur toute la surface, vous verrez que le café, donc les petits grains, ils sont juste au bord.
Ah ouais.
Vous allez, si vous regardez même des tasses, bon, il y a pas de traces de café.
Non.
Vous voyez, ça fait un ring, donc ça fait
un anneau.
Un anneau. Et j'essaie de comprendre la physique de ça. Donc vous pouvez essayer. Donc j'ai fait des expériences avec des microscopes. Un microscope particulier, je viens de manger le nom.
De photons, je sais pas quoi.
Non,
des gros microscopes en fait.
Non, quand tu le coupes en 3D là.
Ah oui.
Un confocal.
Oui, c'est
un microscope qui permet de voir pas juste en 2 dimensions, mais qui permet aussi de regarder en 3 dimensions.
De découper comme une tranche de pain de mie en fait.
Et puis le truc sur les granulaires, c'était un moteur qui vibrait, etc. Et
excellent.
Les cristaux liquides, c'était des manips assez standards. Mais jamais d'énormes trucs. Mais il y en a au labo de physique. Si vous voulez, cet après-midi ou je sais pas quand, je peux vous montrer des énormes manips. C'est pas les miennes.
Merci. On a répondu à ta question. T'as encore une question de science ? Allez, viens.
Je voulais savoir, est-ce que t'es la seule à travailler sur ce sujet ou il y a plusieurs personnes qui travaillent ?
Alors, on est plusieurs. En fait, on est plusieurs en France et on est plusieurs dans le monde même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir. C'est que, en fait, quand on fait de la recherche, alors on est tout seul. Moi, comme je vous dis, je suis souvent devant mon ordinateur. Mais en fait, on collabore énormément. Donc on a vraiment des collègues qui travaillent sur des sujets similaires. Donc on essaye de tous avoir vraiment une expertise un petit peu différente. Donc on ne fait pas exactement la même chose. Mais on est plusieurs personnes qui s'intéressent au même sujet. Alors en fonction des communautés, donc moi sur ma communauté, c'est une communauté qui n'est pas immense, mais il y a des communautés, par exemple le graphène, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est du carbone, c'est une nouvelle forme de carbone qu'on a découverte. Quand vous faites du crayon sur une feuille, vous prenez du scotch, vous enlevez le scotch, vous pouvez l'essayer chez vous. vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est collé. Et ça, c'est du graphène. Et en fait, c'est un nouveau matériau.
Ce qui se colle sur la main aussi quand tu écris au crayon papier et que tu frottes un peu trop quand tu es gaucher.
Ça fait beaucoup de carbone. Ouais. Mais là, par exemple, voilà, c'est des comités, il y a beaucoup plus de personnes. Mais du coup, moi, je travaille vraiment en collaboration. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très chouette dans la recherche. C'est qu'on n'est pas tout seul. Donc on a toujours des gens avec qui discuter, qui sont intéressés dans les mêmes sujets.
Alors écoute, je te propose Camille qu'on passe... donc là tu nous as super bien expliqué... elle a bien expliqué Camille, non ?
Oui !
Elle a bien expliqué, non ?
Oui !
Ah voilà, on a un petit peu d'enthousiasme. Donc Camille a super bien expliqué ce qu'elle faisait. Je propose qu'on enlève cette blouse que tu n'as pas sur le dos, mais blouse virtuelle, et que tu nous racontes un peu ta vie, comment notamment t'en es venue à faire de la recherche ? Est-ce que c'est quelque chose que t'avais envie de faire petite ? Et comment t'en es venue à faire de la recherche sur ce sujet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais petite ? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est pas facile de répondre à ça. J'ai l'impression que rétrospectivement, peut-être on peut réexpliquer un peu les choses. Moi, c'est vrai que depuis que je suis petite, mais d'ailleurs, ça s'est pas arrêté. Je sais que je posais beaucoup de questions à mes parents. Ouais. Mais ça, je pense qu'on le fait tous, en fait. Tous les enfants posent plein de questions parce que les choses, elles sont pas évidentes. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Et moi, je trouve ça super cool parce que il y a une forme d'émerveillement par rapport aux choses qui nous entourent, se poser des questions sur vraiment tout. Ça, je pense que c'est plutôt... Je sais pas si c'est un trait de personnalité, mais j'en sais rien. Ouais. Je pense que tous les enfants font ça. Et j'ai peut-être un petit peu moins arrêté que d'autres personnes, mais je sais que ça, je posais beaucoup de questions, donc ça devait être peut-être un petit peu pénible pour mes parents des fois de répondre aux questions. Mais est-ce que c'était quand j'étais petite ? Je sais pas.
Des fois, ça vient, tu sais. En fait, souvent, ce qui est marrant, c'est que c'est les astrophysiciens ou astrophysiciennes qui disent j'ai utilisé un télescope et j'ai voulu être astro. Il y en a, ça vient après. Tu vois, moi, c'est venu en master. De vouloir faire de la recherche, parce qu'en fait, j'ai demandé un peu à la classe s'ils avaient déjà vu des chercheurs. Il y en a qui ont des parents qui sont dans la recherche, mais tu croises pas forcément toujours des chercheurs.
Non, tu croises pas des chercheurs. Donc, je pense que si on veut vraiment aller sous la blouse, alors là, vraiment, vous allez vraiment, vraiment sous ma blouse. En fait, et là, c'est vraiment mon parcours et ma vie. En fait, moi, ma maman, elle est morte quand j'avais 5 ans, et elle est morte d'un cancer. Et ça m'a énormément marqué dans ma vie. Enfin, là, c'est plus que la chercheuse, c'est moi qui vous parle. Et évidemment, quand on a 5 ans, on comprend des choses, mais on ne comprend pas tout.
Ouais.
Et je sais que vraiment, quand j'étais enfant, avant d'être chercheuse, en fait, j'aurais voulu être médecin. Parce que moi, je voulais sauver toutes les mamans du monde. Et un jour, j'ai compris que c'était pas vraiment ça qu'on faisait quand on était médecin. Et pendant longtemps, en fait, j'ai beaucoup hésité entre médecine et plus faire de la science. J'avais la chance d'avoir un oncle qui était oncologue, justement, donc j'ai pu beaucoup lui parler de mes projets, qu'est-ce que ça voulait dire de faire de la médecine. Et en fait, au final, qu'est-ce qui m'a décidé ? Je suis pas sûre, je pense qu'au bout d'un moment, au fil des choses, je me suis plus intéressée pour la science et la recherche. Mais du coup, ces questions, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de dire. Puis qu'est-ce qu'elle aurait été ma vie sans ça, je sais pas. Mais vraiment, quand j'étais petite, je pense vers votre âge, un peu quand je pouvais commencer à comprendre, moi je voulais comprendre c'est quoi le cancer, comment le corps humain fonctionne. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc avant la physique, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et je sais que ça a vraiment été une source pour moi d'essayer de comprendre en fait.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire de la biologie, j'aurais pu faire. Mais ça, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, je peux imaginer que ça vient de là.
Et du coup, la physique, ouais.
Après, la physique, alors s'il y a des trucs loupés ou pas passés comme prévu, la physique, ça fait peut-être un peu partie de ça. Moi, quand j'étais au lycée, c'était plus clair pour moi que je voulais faire de la recherche.
Ouais.
Ça me faisait vraiment rêver. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement. Mais j'aimais beaucoup les maths, ça se passait bien. J'aimais bien la physique, mais j'avais pas une prédilection particulière pour la physique. Et puis après, je suis allée en classe préparatoire. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler. Vous savez ce que c'est. Alors, après le lycée, on peut aller à l'université. Il y a des classes préparatoires, il y a les IUT, il y a plein de choses. C'est un type de formation. Là, il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique. Et au début, je sais pas si vous connaissez un peu des personnes, mais c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que les maths, moi, je me suis rendu compte que,
c'est dur.
J'étais pas du tout une génie. Enfin,
ouais,
j'ai jamais vraiment eu de doute sur le fait que c'était pas le cas. Et en fait, au final, je me suis dit, la physique, c'est chouette parce que ça répond sûrement plus à mes questions sur la vie qui nous entoure, tout en étant assez théorique. Donc, je suis arrivée un peu comme ça. Donc, est-ce que c'est loupé ouais d'une certaine façon, je
non
sais
mais
pas, ou pas passé comme prévu.
En fait souvent, enfin ce qui est rigolo, c'est que tu vois, moi quand j'étais chercheuse, les gens étaient déçus de quand j'expliquais en fait j'adorais la bio et je savais pas que je voulais être chercheuse jusqu'au jour en master, ouais, où en fait je me suis retrouvée dans un labo de recherche et je me suis dit j'ai envie de faire ça. Non, moi j'avais envie d'être prof à la base, et souvent les gens sont déçus en mode tu sais, chercheur ça doit être un truc que tu veux faire depuis que t'es tout petit, ou t'as vu un documentaire de Marie Curie, il faut absolument que tu fasses de la recherche. Et en fait parfois c'est un métier qu'on découvre comme ça, quoi, ouais, parce que on se dit tiens j'aime bien cette matière, c'est possible de faire de la recherche, etc. Et voilà, et c'est pas toujours un truc qu'on veut faire nécessairement depuis tu vois qu'on est jeune, ou c'est un métier qu'on découvre, quoi.
Oui, il y a de tout, je sais qu'il y a vraiment de tout, et précisément c'est quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose pour lequel je sais pas, on a entendu parler déjà ou pas, c'est pas le cas de tout le monde. Donc vraiment je sais que dans les jeux, justement les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs, il y a vraiment des gens qui ont découvert ça presque en thèse, c'est le moment où on commence à faire de la recherche. Et d'autres, c'est depuis tout petit. Donc, voilà.
Ouais, c'est ça.
Mais j'aurais voulu faire plein d'autres choses. Hein. Pilote d'hélicoptère, femme de ménage, vraiment tout. Hein.
C'est vrai ?
Ah ouais, j'adore faire le
ménage. Ok, donc ça, on parlera de tes passions après. Ouais, tu fais quoi le week-end ? Le ménage. J'attends le week-end pour faire le ménage. Ok, donc, et donc la physique, pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la physique, il y a plein de choses. Pourquoi tu as fait une thèse là-dessus ?
Et bien là, pour le coup, c'est un peu au gré du parcours.
Ouais.
Parce que je pense que la plupart des choses qui font, je vais essayer de réfléchir, qu'on est qui on est,
ouais,
on ne les prévoit pas du tout à l'avance. C'est vraiment, on va vers des choses qu'on aime, et puis les choses se passent, on fait des rencontres, on fait des choix, et on découvre d'autres choses. Et pour moi, je pense que c'était vraiment ça.
Ouais.
Quand j'étais en master de physique, j'étais à Lyon, et il y avait la possibilité d'aller à l'étranger, et moi j'ai décidé d'aller à l'étranger. Je suis allée en Italie à Rome,
ouais,
passer 7 mois, donc ça s'appelle Erasmus, donc c'est vraiment super super chouette. Et je suis allée à cette université, j'ai dû choisir les cours, et il y avait des cours qui n'avaient pas du tout dans mon université, ouais, d'origine. Et notamment, il y avait un cours sur ces questions de physique des liquides, donc c'est un type de physique, et du coup un peu des verres associés. Ouais. Et moi, j'ai vraiment beaucoup accroché, j'ai vraiment
aimé.
Et j'ai découvert ça, mais j'avais aucune idée de l'existence, ça m'a bien plu. Et puis après, finalement, j'ai pris des décisions qui m'amenaient vers ça, mais c'était pas anticipé depuis toute petite, genre je veux étudier les verres. Non.
Ouais. Oui, c'est pas genre tu regardais des flaques qui se gelaient et tu t'es dit, mais comment ça passe ?
Non.
C'est au gré du parcours. On découvre. En fait, le truc, c'est que souvent, on nous demande de choisir un métier au lycée, par exemple. On nous demande de choisir une filière, on nous demande de choisir quasiment un métier. Mais en fait, il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Et souvent, en fait, on se découvre au fur et à mesure en apprenant et en rencontrant même des matières, des gens, des choses, quoi. On a une question.
Est-ce que ton métier, il t'a, enfin, pas obligé, mais à apprendre d'autres langues ?
Oui. C'est une très bonne question, et du coup c'est lié à l'Italie en fait aussi. Donc est-ce qu'il m'a obligé à apprendre d'autres langues ? Oui, parce qu'en fait dans la recherche, enfin en tout cas c'est le cas ici, mais c'est le cas à beaucoup d'endroits, on parle anglais quasiment au quotidien, parce que généralement c'est très international. Donc moi dans mon labo, il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde, donc on parle anglais. Donc là, l'anglais, c'est obligatoire. Et aussi, quand on communique, donc souvent, on voyage pour aller présenter nos travaux à l'étranger. Et là, c'est en anglais. Donc là, l'anglais, c'est obligatoire.
Et on publie en anglais aussi.
Et on écrit en anglais. On lit en anglais les articles des autres. Quand on fait de la recherche pour communiquer, on écrit des articles. On dit, j'ai étudié ça, j'ai trouvé ça comme résultat. Et ça, c'est en anglais. Une autre langue, c'était pas obligatoire, non. Alors, l'anglais, c'est vraiment incontournable. Et après, il y a des gens qui parlent que l'anglais. Moi, dans mon cas, je parle aussi italien, mais vous avez une LV2 déjà en troisième.
Ouais.
Donc LV2, y en a plein, mais moi j'avais choisi italien, et c'est la raison pour laquelle je suis allée à Rome en master.
Ouais, demander justement pourquoi Rome.
Parce que je parlais italien, c'est un grand mot, parce que franchement je parlais pas italien.
Ouais, tu baragouinais italien.
Ouais, j'avais fait LV2 italien, et je m'étais dit j'ai envie d'aller dans cette ville, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de parler la langue. Et ça pour le coup, c'était pas du tout dans l'objectif de faire de la recherche, parce que vous qui fait espagnol en LV2?
Donc là, on a des mains, quelques-unes.
Ouais. Allemand.
Ah, on a plus de mains qui se lèvent.
Italien.
Ah, on a un italien.
C'est plutôt Du coup, c'est plutôt espagnol.
Plutôt allemand, je dirais, non.
Allemand, espagnol, je sais pas. J'ai pas vu assez de mains.
Espagnol, ouais.
Espagnol, allemand. Ouais, ouais, tout le monde me disait, ouais, espagnol, tu vas dans l'Amérique latine pour voyager, ouais, c'est beaucoup plus utile. L'italien, ça sert à rien. J'étais restée sur cette idée, mais ça me plaisait quand même d'apprendre l'italien. J'ai appris l'italien.
Ouais.
Et en fait, il s'avère que dans ma communauté de chercheurs, mes collaborateurs, il y a énormément d'Italiens. Et donc, au labo, dans les conférences, partout, ça parle italien. Et en fait, c'est super utile dans mon travail. C'est utile. Les gens parlent anglais, mais généralement, c'est rigolo parce que pas beaucoup de gens parlent italien. Donc, ouais, moi, j'arrive et les Italiens, ils parlent tous italien entre eux et tout. Moi, j'arrive et je commence à parler italien. Ils sont là. Tu parles italien ?
Gros choc.
Exactement. Donc, voilà, l'anglais.
Ouais, l'anglais, ça sert beaucoup. L'anglais, mais d'ailleurs, parfois, on n'est pas forcément très bon. Enfin, c'est pas un critère discriminant, non, pour faire de la recherche. Typiquement, moi, j'avais fait allemand en première langue. J'étais très mauvaise en anglais. Et maintenant, je vis en Angleterre, je suis bilingue et tout. Oui. Ça s'apprend. Et surtout, on est baigné dans l'anglais quand on fait de la recherche. Oui. Donc, c'est pas, si vous êtes mauvais en anglais, dites-vous que c'est pas grave.
Ouais, pas du tout. Et en plus, c'est vrai que nous quand on entre français, c'est toujours un peu gênant de parler anglais. Enfin, moi, je trouve. Hein, mais pour beaucoup de gens, c'est que c'est un peu gênant. Mais je pense que c'est le cas pour n'importe quel travail. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense, enfin, vraiment, vous allez parler anglais ou dans vos études ou des choses comme ça. Et le truc, c'est que quand t'es face à quelqu'un qui parle pas ta langue, en fait, t'as pas le choix. Et, ouais, et du coup, ça libère vachement. Enfin, tous les blocages qu'on a sont libérés.
Ouais, puis chacun a son anglais, pas forcément exact, pas forcément parfait, mais toutes les nationalités, c'est un anglais européen, on parle, oui, en fait souvent. C'est rigolo parce que chaque pays a son type de faute d'anglais. Et c'est rigolo parce que parfois, quand tu discutes avec tout le monde en anglais, tu récupères toutes les fautes de tout le monde.
C'est ça.
Mais c'est ça, voilà. Donc l'anglais, oui, il faut, mais c'est pas discriminant, quoi. Ok. Et donc là, on a parlé de comment t'en es arrivé là. Qu'est-ce que t'aimes faire en dehors du labo ?
Mais bonne question.
À part le ménage.
Ouais, c'est ça. Ça craint. j'ai peur d'être un peu boring, là, parce que... Qu'est-ce que j'aime faire en dehors du labo ? Mais des trucs assez standards, en fait, mais hyper importants pour moi. J'aime, ouais, vraiment beaucoup faire du sport.
Ouais, tu fais quoi comme sport ?
Je fais beaucoup de sport. Alors là, je fais de la course à pied,
ouais,
et la natation.
Ok.
Mais j'ai fait d'autres sports avant.
Ouais.
C'est juste que j'ai besoin de me défouler et comme je passe la journée assise devant mon ordinateur, le soir j'ai un peu trop d'énergie,
ouais,
donc j'ai besoin de la dépenser. Et puis sinon, des trucs un peu basiques. Vous habitez tous à Paris ? Non ? Non, vous n'avez peut-être pas tous à Paris, ok. Moi, je n'habite pas à Paris depuis très très longtemps.
Ouais.
Et en fait, j'aime bien sortir à Paris. Enfin, je ne parle pas de grosseur ou quoi, mais il y a plein de... Non, mais c'est vrai. Il y a plein de concerts, il y a plein de musées, plein de théâtres. Donc, ouais, cette semaine, je suis allée au théâtre. J'essaie de profiter un peu de l'offre culturelle qu'il y a ici. Et aller au ciné. Enfin, des trucs un peu basiques, mais en, ouais, fait, qui me permettent de... je sais pas, d'explorer d'autres trucs.
Ouais.
C'est vrai qu'une spécificité de la recherche, c'est que par rapport à un travail où on arrive, on a des tâches, en fait, on pense un peu... c'est pas qu'on pense tout le temps à notre recherche, mais c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et c'est assez facile de commencer à y penser, je sais pas, le soir, on continue à, ouais, penser, ah tiens, et ce truc. Et donc, c'est bien d'avoir des choses comme le sport, la recherche. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde aime faire du sport.
Ouais. Bon, pas tout le monde.
Pas tout le monde. Tout le monde aime faire un truc.
Ouais, voilà. Et le ménage aussi, donc si tu disais.
Et le ménage, ouais.
Mais ok.
Et j'aime faire quoi en dehors du labo ? J'aime beaucoup les chiens, mais j'ai pas de chien, du coup je squatte les gens qui ont des chiens.
D'accord. Genre tu squattes les chiens des gens aussi ?
Je squatte les chiens des gens,
ouais,
qui ont des chiens.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Si vous avez un chien, moi je promène avec grand plaisir.
Tu promènes les chiens de tes potes ?
J'ai pas de potes qui ont des chiens, donc enfin bon, bref, il y a des réseaux de.
Ouais, Borrow, voilà. My Doggy,
ouais,
notamment.
Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu une spécificité.
Non, mais c'est bien. En fait, souvent, on a aussi l'image du scientifique qui fait que ça, tu vois. Et c'est pour ça que je pose toujours cette question-là. Et voilà, il y a plein de choses qu'on fait. Tu vois, ça peut être de la broderie, ça peut être n'importe quoi.
J'essaye la broderie, la machine à coudre, mais c'est juste pour les trous, les trucs comme ça. Hein. Je suis vraiment pas douée.
Est-ce que vous avez des questions ?
Chien, ménage, langue étrangère, études.
On va continuer. Non, il n'y a pas de questions. Alors, j'ai lancé un truc il y a quelques épisodes. Ouais, c'est pas marqué. Tu l'as pas eu en avance. Bois un verre d'eau, voilà. Bois une gorgée d'eau. T'inquiète, c'est rien. Il y a quelques épisodes, je me suis dit, ah, ça serait rigolo si les invités pouvaient se poser des questions entre eux ou entre elles. Et donc, je demande maintenant aux invités de répondre à la question de l'invité d'avant et de poser une question à l'invité d'après.
Ça marche.
La question de l'invité précédente, elle savait qu'on allait enregistrer aujourd'hui en public avec une classe. Et donc, en fait, sa question, c'est si tu devais donner un conseil ou des conseils, ou si tu avais une question pour la toi de collège, laquelle ce serait ou lesquelles ce serait. En gros, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de collège?
Oh là là.
C'est facile et difficile à la fois comme question. Et là, ce qui est bien, c'est que t'as plein de...
J'ai des yeux qui me regardent.
T'as plein de troisièmes, donc tu peux te dire qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire ou de te dire à toi. Peut-être un conseil, tu vois, pour réussir. Là, si tu penses à la Camille, la petite Camille en troisième, tu lui dirais quoi? J'aime bien surprendre mes invités avec...
Bah là, ça marche.
Ouais.
Mais j'ai tellement de trucs dans la tête que...
Bah vas-y.
Faut en dire un. Non, en fait...
Tu peux en dire plus qu'un.
C'est vrai?
Ah oui, oui, carrément.
Un conseil, plus
de
conseils.
Oui, plus de conseils. La question, c'était si t'avais des conseils, tu vois, même. Là, je te dis un, mais en vrai, ça peut être plus.
Je sais pas si c'est un conseil à moi ou aux autres, mais du coup, c'est un peu pareil.
Ouais.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire... et je me mets dedans du coup, quand j'étais petite, c'est que vous devez croire en vous et en vos rêves, ce qui vous fait envie, parce que moi je suis persuadée que tous en vous, vous avez... Enfin vous êtes super, je sais pas comment dire, extraordinaire d'une certaine façon, et c'est vous qui l'avez en vous. Il n'y a que vous qui peut savoir ce qui vous anime, ce que vous aimez. Ça peut être différent des autres. Mais ça, c'est vraiment important que s'il y a des choses qui vous font envie, qui vous animent, qui vous plaisent, que ce soit le sport, le théâtre, la physique, n'importe quoi, vous suiviez vos rêves et ce qui vous fait envie, parce que c'est le plus important.
Ouais.
Voilà.
Et souvent, je crois que j'ai entendu plusieurs fois dans ce podcast, c'est des chercheurs et des chercheuses qui me disent en recherche, c'est pas forcément les plus intelligents qui y arrivent, c'est les plus passionnés.
Carrément. Mais en fait, je crois que ouais, c'est bien. C'est ce que je veux dire, c'est si vous avez des passions ou des choses qui, ouais, je crois que c'est ça. Ben, faites-le parce que vraiment, c'est plus important quoi. Moi, je pense que peut-être déjà à cette époque, je me disais. Je voyais des gens, des adultes autour de moi, il y en avait qui galéraient un peu dans le travail et tout. Je me disais, ce serait cool de faire un travail où...
Que t'aimes.
Et il y a plein de choses différentes et pas forcément standard. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de pas essayer de... En fait, faites ce qui vous fait plaisir. Je pense que... Je brode un peu, hein, mais pour continuer sur les choses, les études, là, vous vous dites, ah, faut que je fasse un métier. Mais en fait, des métiers, il y en a, comme tu dis, il y en a plein.
Ouais.
Il y a plein de métiers qui n'existent pas encore, qui existeront quand vous serez sur.
Tellement.
À l'âge de commencer à travailler. Mais en fait, essayez plutôt, demandez-vous qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien. Est-ce que vous aimez lire, être dehors, bouger, parler avec des gens, être seul être créatif, être plutôt, technique. Enfin, en fait, c'est plutôt ça qui doit vous guider. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez? Et ça va vous guider naturellement, je pense.
Ouais. C'est une bonne, c'est une bonne chose. C'est,
et
ouais, c'est un
confiance
bon conseil.
Et ouais. Être indulgent avec soi-même. Ouais. Voilà.
Et sachant que un échec, c'est pas toujours un échec.
Ah oui, carrément.
Parfois, on veut faire un truc et puis en fait, on se dit, c'est pas pour moi, bah, je fais demi-tour, je fais autre chose et c'est pas grave.
Mais quand on échoue, en fait, je trouve qu'on apprend beaucoup plus sur soi que quand on réussit. Hein.
Ouais, 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 je suis d'accord.
En tout cas, moi, les fois où j'ai loupé, ça m'a plus appris.
Bah ouais.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de l'échec, mais au final, l'échec, ça t'apprend toujours plein de choses. Alors, est-ce que tu as une question pour l'invité?
Mais je sais pas, mais est-ce que je peux pas utiliser le public pour qu'on concocte une question?
Utilisons le public, profitons d'avoir un public.
Je sais pas, après, s'il y a pas de question du public...
Alors, la prochaine invitée, c'est une chercheuse en cancéro. Je l'ai pas fait exprès, je savais pas.
Oui, je sais. Waouh. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux brainstormer, là?
Tu peux brainstormer avec le groupe.
Et la question qu'on pose à cette chercheuse est... Est-ce qu'il y a eu un événement dans sa vie qui lui a donné envie de devenir chercheuse en cancérologie?
Ok, donc si elle répond pas à ça pendant l'interview, je lui demanderai à la fin. Ok.
Il faut une question plan B ou
Allez, prenons une question plan B.
Une question plan B.
Au cas où elle répond déjà à ça.
On brainstorm plus.
Donc la question plan B, le groupe a décidé
que c'était quel est le plus grand accomplissement dans sa vie, okay. De chercheuse ou personnelle.
Ok, très bien. Bah, donc, faudrait écouter. Merci. Merci le groupe. Faudrait écouter
merci
l'épisode d'après. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé que tu as envie d'aborder ?
Bah, moi, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Justement, un peu pour cette raison de. Tu sais, moi, je viens de commencer mon poste de chercheuse,
ouais.
Pour toute la vie.
Pour toute la vie.
Bah c'est, non, mais c'est vrai. Et c'est un peu vertigineux quand même de se dire, bah maintenant, ouais, je vais faire de la recherche pour tout le temps. Et je me pose pas mal de questions par rapport à mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là et tout, et qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune. Et du coup, ça me touche vachement d'être avec vous. Et je suis hyper impatiente de savoir ou de me dire, bah voilà, vous allez faire des choix, faire des études et de savoir ce que vous faites, parce que je suis sûre que vous allez faire des trucs super cool, peu importe ce que vous faites. Donc ouais. Voilà, j'ai plein d'espoir.
Oh, je suis cool.
Je suis trop contente.
Merci Camille d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était un super épisode.
Bah, merci beaucoup à toi et merci à vous tous.
Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté. J'ai oublié de le dire au début, mais ce podcast, il est enregistré à l'ENS dans le cadre de la semaine qui est juste avant la journée des femmes et filles de sciences. Donc on fait ça pour mettre en avant des femmes et des filles de sciences. Donc toi, merci d'avoir accepté. Merci à vous toutes et toutes d'avoir écouté ça, d'avoir posé toutes vos questions. Et je vous propose qu'on applaudisse Camille qui nous a raconté plein de choses aujourd'hui. Et qu'on vous applaudisse vous aussi parce que vous avez été très cool. Voilà, bah merci Camille et à très bientôt. Je mettrai tous les liens dans la description qu'on puisse venir te poser des questions si on a envie.
Très bien. Merci.
À bientôt.
Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @souslablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.